I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Jeans Podcast.
On va parler de la place des femmes dans les discours publics, de féminisme intersectionnel et de convergence des luttes. Dans un contexte intersectionnel, ça signifie que les luttes contre des oppressions telles que le racisme, le sexisme, l'homophobie ou le classisme sont interdépendantes et que leur combinaison peut mener à une résistance plus puissante encore contre les structures de pouvoir établies. En gros, l'union fait la force. En tout cas, un homme militant en faveur des droits des femmes, c'est possible. À leur côté, en tant qu'allié, qui prend la parole pour la leur donner, mais sans prendre leur place. Depuis mon point de vue situé et mes privilèges, je peux avoir une écoute active. Ça veut dire être en retrait sur les sujets dont je n'ai pas fait l'expérience et ne pas accaparer la lumière. C'est aussi citer les travaux des femmes dès que possible et pas que de Simone de Beauvoir. Je parle aussi de Malika Hamidi, Françoise Vergès, Nesrine Slaoui ou Rokhaya Diallo que j'ai toutes accueillies dans Jeans. Et puis en plus, c'est un fait devenu trop évident pour qui veut bien tendre l'oreille. Combien de femmes ont eu la Palme d'Or au Festival de Cannes? 3. Jane Campion, Julia Ducournau et Justine Triet. Combien de rues portent des noms de femmes en France? 4%. Combien de femmes étaient invitées sur le plateau de Pascal Pro, sur CNews, pour parler de ménopause, lors de la journée mondiale de la ménopause ce 18 octobre 2023? 0. En revanche, il y avait 6 hommes pour en débattre. Ça se complique quand on sait qu'il y a des femmes qui sont transphobes, par exemple. Donc plus que d'être un allié des femmes, c'est être un allié du féminisme. Être allié, c'est comprendre qu'on n'a pas besoin d'être une personne qui a un vécu ou une identité différente de la mienne pour me battre pour qu'elle puisse vivre pleinement son identité. C'est prendre à sa charge une mission qui ne concerne pas seulement notre petit nombril. C'est se charger d'énergie positive et d'empathie et d'amour pour se battre pour des valeurs d'égalité, de justice et d'équité. Mais alors, que peut-on s'apporter mutuellement entre une féministe blanche et un homme racisé, par exemple? Pour répondre à cette question, je suis honoré d'accueillir une reine du podcast français, une féministe reconnue, Lorraine Bastide. Lorraine Bastide est une journaliste, autrice et productrice française, reconnue pour son engagement féministe. Ancienne rédactrice en chef du magazine Elle, elle a gagné en notoriété avec son podcast La Poudre.
Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes? Contre quoi ont-elles résisté? Que crient-elles? Que rêvent-elles? Que lisent-elles?
En plus de ses réalisations médiatiques, elle a écrit plusieurs ouvrages, dont le roman 2060, qui vient de sortir et qui reflète son talent diversifié. Merci beaucoup, Lorraine, d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
Bah, merci à toi de m'y avoir conviée. Je suis ravie d'être ici.
Alors, tu le sais très bien, Lorraine, on vit dans un monde de l'urgence et de la priorité. Avec toutes les luttes pour les droits humains, beaucoup choisissent de défendre leur paroisse ou les intérêts de ceux qui leur ressemblent. Je suis une femme hétéro-blanche, donc je marche pour mes droits de femme d'abord. On verra par la suite pour les personnes noires, les homos et les personnes handicapées. Mais si on veut se battre pour les droits de tout le monde, comment on fait? Comment on réalise la fameuse convergence des luttes? Qui est, je le rappelle, un concept qui découle directement de la pensée de Kimberlé Crenshaw à l'origine du mot « intersectionnalité ».
Je pense qu'il suffit d'ouvrir les yeux et de tendre l'oreille, en fait. Dès qu'on est animé d'un peu de curiosité, d'un peu d'empathie et d'un peu d'écoute, on se rend compte que bah déjà, toutes ces luttes sont complètement interconnectées. Tu vois, par exemple, tu as parlé du handicap. Moi, c'est en discutant avec des personnes handicapées, en lisant des textes sur le validisme, qui est cette discrimination qui s'exerce à l'égard des personnes handicapées, que j'ai pris conscience du fait qu'en fait, on est tous et toutes potentiellement dans nos vies à un moment susceptible d'être en situation de dépendance. Qu'il s'agisse d'un accident ou de la vieillesse, en fait, la situation de handicap, c'est quelque chose qui survient dans n'importe quelle vie. Et c'est un peu une façon de ramener égoïstement le sujet en disant ça nous concerne aussi personnellement, mais c'est aussi une façon de démontrer que finalement, c'est presque naïf et utopiste de croire qu'on peut restreindre son champ de réflexion à une seule catégorie de discrimination. Je connais des femmes blanches qui élèvent des enfants racisés. Je connais des femmes hétérosexuelles qui ont des enfants trans ou LGBT. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, quand on s'intéresse à la richesse de la vie, on se rend compte qu'il est impossible de choisir une discrimination comme étant prioritaire sur les autres. Soit on se bat pour l'égalité, soit on se bat pas. Et ça, c'est bien le problème aujourd'hui avec le féminisme et avec les luttes LGBTQIA, c'est qu'elles sont de plus en plus souvent instrumentalisées par une pensée d'extrême droite, par une pensée qui vise à construire en fait de la haine contre un tierce groupe en prétendant utiliser le féminisme. Et là, il faut toujours se méfier. Quand la bannière du féminisme est tenue par un panel de femmes blanches d'extrême droite, il faut se méfier parce que ça n'est plus du féminisme. Ça n'est en tout cas pas un combat qui s'inscrit dans la lignée des luttes féministes telles qu'elles ont toujours existé.
Oui, alors justement, je sais que tu as aussi fait les frais de cyberharcèlement, malheureusement. On t'a traité de journalope, d'islamo-gauchias, de suppôt de l'islamisme. Alors en quoi est-ce que c'est important pour toi, en tant que femme blanche, de t'engager dans des mouvements intersectionnel ou sur la question de l'islam en France, par exemple?
Alors, effectivement, j'ai beaucoup été traitée d'islamo-gauchias. Toutes ces insultes ont déferlé sur moi dès l'instant où j'ai commencé à prendre position dans l'espace public contre les violences qui s'exercent contre les femmes musulmanes portant un voile. C'est quelque chose, moi, qui m'a toujours heurtée, en fait. Déjà, quand je travaillais au magazine Elle, il y a une quinzaine d'années, le magazine Elle prenait des positions vraiment très, entre 10 000 guillemets, anti-voile, que moi, je ne comprenais pas, en fait. J'avais beau pas encore être éduquée sur ces questions, pas encore avoir rencontré Anan Karimi et toutes ces femmes qui m'ont aidée aussi à analyser ces questions sur le plan historique et sociologique. Je disais, mais ça ne va pas. En fait, d'où on va interdire à une femme d'exercer son métier parce qu'elle a une religion, parce qu'elle pratique sa religion? D'où on va présupposer qu'elle porte ce foulard sur la tête parce qu'on l'a obligée, parce qu'elle est soumise? En quoi en fait sa façon de s'habiller serait plus contrainte par des éléments extérieurs que la façon dont moi je m'habille ou toi tu t'habilles avec tes talons et tes bas, quoi. Enfin, c'est tout de suite venu appuyer à un endroit où j'ai senti que c'était vraiment mon féminisme, quoi. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à comprendre les femmes qui se disent féministes et en même temps soutiennent des lois qui visent à exclure les femmes portant le voile d'espaces comme les sorties scolaires. Je trouve ça mais tellement limpide qu'en fait, c'est un geste profondément sexiste et un geste sexiste évidemment teinté de colonialisme et de racisme et d'islamophobie. Mais voilà, et je pense que c'est vraiment à cause de ces positions-là que j'ai prises assez tôt. Peut-être à une époque où il n'y avait pas énormément de féministes non racisées qui s'emparaient de ces questions et tout de suite ça déclenche en fait c'est quelque chose qui a aussi été démontré depuis, quoi. C'était très organisé, en fait. C'était un réseau très organisé autour du Printemps Républicain puis autour du Fonds Marianne, avec des personnes qui étaient vraiment là pour jouer les cerbères de la laïcité en France et s'en prendre à toute personnalité publique qui pouvait faire évoluer le débat ailleurs, quoi. Et puis j'imagine que c'est aussi plus compliqué quand c'est justement une femme blanche bourgeoise qui partage en fait leur code et leur diplôme, etc., qui vient dire ça les arrange pas, en fait, parce que finalement je déradicalise le discours, je le rends accessible, je le rends audible auprès d'une audience qui est pas forcément l'audience qu'ont les discours plus radicaux des coloniaux, etc., et ça, je pense que ça les terrifie.
Alors, je rappelle par ailleurs que les dernières études sur les victimes de cyberharcèlement, qui est punie au passage par la loi de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende sont à 84% des femmes, à 43% des personnes LGBTQIA+, et à 22% des personnes en situation de handicap. En 2018, une étude d'Amnesty International révélait que les femmes racisées avaient 34% de risque de plus que les femmes blanches d'être insultées sur X, sur Twitter.
Ouais, c'est hyper important de le souligner. C'est des chiffres aussi que je donne dans Présente, mon bouquin. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai reçu une grosse vague de cyberharcèlement au moment où j'avais une émission sur France Inter qui s'appelait Les Savantes. Et j'étais harcelée suite à 2 rencontres, celle avec Anan Karimi, donc qui est maîtresse de conférences à l'Université de Strasbourg, sociologue et spécialiste justement de ces questions de liberté des femmes musulmanes dans l'espace public. Et puis Maboula Soumaoro, qui est aussi une grande... Elle est linguiste, je crois, à l'origine, américaniste. Et en fait, c'était intéressant de voir... Donc, on a été toutes les 3 cyberharcelées, toutes les 3 insultées. Mais il y avait, en fait, une différente teneur dans les insultes qu'on recevait. C'est-à-dire que moi, en fait, on dit que je suis stupide. C'est vraiment, on me traite de conne. C'est que voilà, je suis l'idiote utile, etc. C'est tout ce vocabulaire là de l'idiote utile que je prends beaucoup. Mais à la rigueur, je suis presque pardonnée parce qu'en fait, j'ai pas compris. Alors que en tant que femme noire ou que femme musulmane, là, d'un seul coup, on passe tout de suite aux menaces de mort, aux insultes racistes, et c'est beaucoup plus menaçant en fait. C'est beaucoup plus violent. Donc c'est pour ça, voilà. Même si le cyberharcèlement que je prends, il m'a fait mal et vraiment j'ai eu des épisodes un peu de burn-out et tout à cause de ça. C'est rien comparé à ce qu'on peut se prendre dans la figure quand on est une femme racisée ou une femme visiblement lesbienne sur les réseaux sociaux. Je pense aussi à Alice Coffin. Enfin voilà, c'est des campagnes qui durent des mois et qui laissent exsangue, qui traumatise profondément.
Alors dans les médias, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, les femmes racisées et ou musulmanes brillent par leur absence. Une enquête du service Check News du journal Libération a démontré qu'entre le 11 et le 16 octobre 2019, 85 débats sur le port du voile ont été organisés sur les 4 principales chaînes d'information françaises. Aucune femme portant le voile n'a participé à ces débats. Aussi, il y a 16% des personnes qui apparaissent à la télévision qui sont perçues comme non blanches. Moi, ça me rappelle clairement ce que Gayatri Spivak disait, les subalternes ne peuvent pas parler.
Cet espace médiatique, c'est vraiment l'endroit, en tout cas, où est le mieux symbolisé cette incapacité à parler pour soi-même. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui concerne les femmes en général. Il y a évidemment un plafond de verre extrêmement épais pour les femmes à la télévision. On sait par exemple que les femmes expertes, elles représentent que 13% des experts et expertes qui s'expriment dans les émissions d'information. Et ça montre aussi qu'il y a cette espèce de déni en fait de la faculté des femmes à porter une parole d'autorité, à parler pour elles-mêmes. On va trouver les femmes beaucoup plus dans le rôle de la témoin ou du micro-trottoir, de la mère de famille interviewée sur le prix des denrées alimentaires ou des courses scolaires. Comme souvent, la tendance s'exacerbe encore quand on va affiner l'observation et qu'on va chercher des femmes racisées, des femmes concernées, ça devient ridicule. Alors après, heureusement, je pense que ces médias aujourd'hui s'adressent quand même à une audience de plus en plus restreinte. Il faut pas minimiser l'impact qu'a la télévision sur l'opinion publique. Malheureusement, c'est encore très fort. Mais bon, t'es bien placé pour savoir qu'on a aussi créé plein d'espaces alternatifs justement pour venir un peu pallier tout ça, quoi.
Moi, je le vois bien avec mon podcast que je suis quand même un homme arabe musulman qui parle de sujets tabous. Au-delà du fameux shadow ban d'Instagram, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à émerger dans les discours majoritaires ou dans les médias mainstream.
Ah ouais, complètement, complètement. On barre la route à ces questions et on barre la route à ces questions en barrant la route aux personnes concernées par ces questions. Et t'as raison de le souligner. C'est-à-dire, si la presse féminine traite si mal les sujets, ne serait-ce que même beauté concernant les femmes noires, c'est qu'en fait, dans les rédactions, il n'y a pas de femmes noires. Et c'est effectivement, tu devrais pouvoir faire ton métier, interviewer des gens, exposer une expertise dans les médias mainstream. Et le fait que tu doives le faire dans une niche à part, ça montre bien qu'il y a un dérèglement dans le système. Effectivement, on ne peut pas s'en satisfaire. Violence sexiste,
Mais alors, comment tu imagines une collaboration entre une femme blanche comme toi et un homme arabe musulman comme moi dans la lutte contre l'oppression et la discrimination? Comment nos luttes peuvent-elles se renforcer mutuellement? Comment une femme blanche peut être une alliée efficace pour les personnes racisées? Et vice-versa, comment moi, je peux être, en tant qu'homme, un allié efficace dans la lutte contre le sexisme et la misogynie?
Parce que c'est la même chose. Parce que c'est-à-dire le fait que tu sois assigné à certains rôles dans la société, le fait que qu'on attende de toi un certain type de qualité, etc. C'est vraiment la structuration sexiste du monde qui t'opprime. Et c'est la même pour moi. Donc on est écrasé sous le même joug. Évidemment, je suis pas concernée par les questions. De racisme et les questions coloniales, et en même temps si, je suis concernée parce que ce sont mes ancêtres qui ont colonisé l'Algérie, le Maroc et d'autres pays en Afrique, et évidemment en fait que je suis concernée, que je suis l'héritière aussi de ce passé colonial. Donc en fait, je pense encore une fois que la simple observation du réel et sortir en fait des idées toutes faites et des idées préconçues pour un tout petit peu pousser la réflexion, ça permet de très très vite arriver à la conclusion qu'on aspire vers la même liberté, qu'on vit dans le même monde, qu'on est les héritiers de la même histoire, qu'on vit dans le même espace public, qu'on est soumis aux mêmes lois et que c'est ensemble qu'il faut qu'on se batte pour que ce monde-là évolue.
Tu as des exemples concrets où tu as ressenti le soutien d'alliés issus d'autres milieux ou d'autres communautés dans ta lutte féministe, ou un moment particulier où tu as appris quelque chose d'important grâce à l'interaction que tu as eue avec quelqu'un d'une autre communauté ou d'une autre identité?
Toutes ces dernières années, moi, j'ai été amenée à échanger avec des hommes cis qui s'étaient intéressés à mon travail, qui avaient lu mes bouquins et qui apportaient un éclairage ou au contraire, simplement un accord quoi, sur mes idées. Et rien que ça, ça fait du bien. Moi, à chaque fois, c'est vrai qu'on rappelle souvent, on ne va pas leur donner des médailles, etc. Mais n'empêche que ça fait toujours plaisir de voir des hommes qui sont rares dans le public de mes conférences. Et voilà, c'est toujours bon signe. Même si généralement, quand il y a un homme qui me lit ou qui vient à mes conférences, c'est que derrière, il y a une femme qui l'a poussé à y aller. Même si je précise qu'il y a toujours eu, j'ai toujours eu une audience très fidèle d'hommes gays dans de la poudre. Je sais que c'est aussi au tout début du podcast, il n'y avait pas énormément d'espace où on parlait de genre. Entre temps, il y en a beaucoup qui se sont créés et heureusement. Mais je sais que la poudre a aussi permis à beaucoup de jeunes hommes gays d'avoir accès à certains contenus, à des recommandations de livres, etc. Et voilà, et l'interaction a existé dès le départ. Mais après voilà, dans la poudre elle-même, moi, le principe que j'ai eu de lire et de recevoir et d'interviewer des femmes qui étaient à l'intersection de discrimination, qui n'étaient pas forcément connues par moi, ça m'a énormément fait grandir. Donc voilà, moi je me considère depuis toujours alliée. Même si je sais que cette question le terme allié fait un peu débat aussi, je me rappelle en avoir parlé avec Fania Noël, qui a une approche très intéressante de cette question. Et voilà, moi je l'emploie parce que les gens comprennent ce que ça veut dire, mais je suis aussi sensible aux critiques de ce que peuvent induire ce mot. Mais en tout cas, voilà, je me suis toujours sentie alliée des luttes antiracistes. Après, voilà, je pense qu'on peut aussi distinguer être allié d'une lutte et marcher à côté d'une personne dont on comprend la colère, la détresse, la souffrance, sans forcément prétendre la vivre soi. Ou voilà, on peut pas se mettre à la place d'eux, mais on peut quand même comprendre. Et moi, je revendique aussi... par exemple, moi, je ressens un lien très fort avec Assa Traoré, qui existe depuis des années. Enfin, voilà, moi, je la considère presque comme une sœur. Et évidemment... moi, je ne sais pas ce que c'est d'être un homme racisé dans l'espace public, d'être contrôlé au faciès et de risquer de mourir sous les coups des policiers. Mais par contre, je sais ce que c'est d'avoir une sœur tuée brutalement, en fait. Et je sais ce que c'est que de comprendre que la mort de son frère ou de sa sœur a un caractère systémique, un caractère politique, et d'avoir envie de se battre pour ça. Et voilà, je ne peux pas comprendre exactement la peine d'Assa, mais je comprends le moteur de sa lutte. Et quand elle parle de son frère, je pleure parce que parce que ça résonne dans mon cœur avec la mort de ma sœur. Donc, y a rien de pire, en fait, que les white saviors et que les alliés blancs qui veulent parler à la place d'eux. Mais par contre, je pense quand même que la possibilité de l'empathie profonde avec les souffrances de l'autre est réelle, même si peut-être ça fait bisounours, j'en sais rien.
Il y a aussi des personnes qui me disent très clairement qu'il n'existera jamais de convergence des luttes, qu'ils n'y croient pas, que c'est impossible pour elles parce que tout simplement, on ne pourra jamais vivre les oppressions que ces personnes vivent à l'intersection, encore plus à même d'être sans privilège dans ce système hétérocis patriarcal, raciste, validiste, islamophobe, antisémite, etc., etc.
C'est difficile de répondre à ça. C'est un peu comme l'union de la gauche, quoi. Tu vois, on a envie d'y, on a envie d'y croire, mais en fait, on n'y croit pas du tout, quoi. Donc, en tout cas, moi, il y a un truc pour moi qui est évident, qui est limpide, c'est que qu'on soit une femme blanche, un homme racisé, une personne handicapée, une personne LGBT, une personne pauvre, une personne avec ne serait-ce qu'une santé, en fait, on est tous concernés par la montée de l'extrême droite. Il y a quand même un ennemi commun à nous tous et toutes, qui est le fascisme, et qui n'ira pas, qui n'ira pas dans la dentelle le jour où ces personnes seront au pouvoir. On va bien sentir passer qu'en fait on est tous minorisés, et je pense que ça pourrait être malin d'arriver à s'organiser avant qu'il soit trop tard et avant qu'on réalise que oui, il aurait fallu converger. C'est un peu cynique, mais peut-être qu'avant de faire front commun, réaliser qu'on a un ennemi commun, ça peut aider, quoi. L'extrême droite, c'est rien d'autre qu'un super patriarcat colonial, ultra individualiste, capitaliste, enfin voilà, qui cause la mort, en fait, qui est mortifère. Moi, c'est aussi dans toutes ces réflexions menées notamment par Judith Butler dans ses plus récentes années, autour de la valeur de la vie, autour de l'interconnexion. C'est difficile de pas arriver à la conclusion que en fait, on lutte pour la vie. Et c'est la vie de nos enfants, c'est la vie de nos voisins, c'est la vie des animaux, des plantes. Enfin, je veux dire, soit on lutte pour la vie, soit on est pour la mort, quoi. Et ça paraît encore une fois bisounours. Et je sais que, par exemple, après le massacre du 7 octobre et l'attaque d'Israël contre la Palestine, quand on a vu émerger les premières images de Gaza sous les bombes et évidemment l'immense colère qu'ont suscité ces images, il y a un texte de Judith Butler sur la non-violence qui a commencé à circuler, sur lequel je me suis jetée goulûment, parce qu'évidemment que voilà, la non-violence, c'est la clé, c'est super. Et en fait, j'ai vu des personnes concernées, des personnes musulmanes, militantes, être en colère contre ce texte en disant « Vous croyez vraiment qu'on va s'asseoir par terre et invoquer la non-violence alors qu'on est en train de se prendre en pleine tronche une violence incommensurable ?» Et ce que je veux dire par là, c'est que parfois aussi, envisager les choses sous cet angle de l'interconnectivité, de la non-violence, de l'empathie, etc., c'est en fait en soi un privilège immense. C'est tellement plus facile de voir les choses de cette façon quand on est, comme je le suis là, assise au chaud dans sa maison, quoi. Je peux comprendre aussi des positions plus radicales, plus rigides, de non-mixité, de non-convergence des luttes, de radicalité politique, parce qu'il y a des positionnements, en fait, où cette position est la seule valable.
Comment, à l'inverse, on peut se prémunir contre le mansplaining, moi qui t'explique par A plus B comment fonctionne ton utérus pendant tes règles, ou contre le whitesplaining, exemple, toi qui, un peu bourré en soirée, me dis que je suis un peu bête de croire en Dieu.
c'est difficile, hein, parce que c'est quand même des plaies de ce monde qui sont bien ancrées, quoi. Le mansplaining, ça m'arrive encore tellement souvent. C'est incroyable, hein, des mecs. Ils se sentent complètement autorisés à m'étaler leur point de vue sur le féminisme. Si par malheur, ils ont écouté un demi-podcast ou lu deux lignes d'une interview, c'est assez fou, quoi. Donc non, très, très souvent encore, je me trouve confrontée à des mecs qui me font 45 minutes sur le féminisme et sur « je desserre ma cause », etc. Moi, je m'en prémunis en général en disant que je travaille pas le soir et le week-end, par exemple. Genre, vraiment, si on commence à vouloir me lancer sur un débat sur les questions féministes ou autres, je dis non, là, vraiment, désolée, je travaille pas là ce soir, donc je vais juste pas t'écouter, pas te répondre et retourner vaquer mes occupations. Voilà, après, peut-être aussi parfois, quand si on est un peu en forme, si on a dormi 8 heures, mais qu'on a bien bu son litre et demi d'eau dans la journée, qu'on se sent disposé, qu'on a 5 minutes devant soi, parfois, on peut aussi lire dans ces tentatives une volonté de bien faire, même si elle est maladroite, et un intérêt, etc. Donc, ça peut aussi être l'occasion d'éclairer quelqu'un, de lui tendre la main, de lui dire, tu vois... J'apprécie ton intérêt pour ces questions, mais regarde, tu viens de parler pendant 30 minutes alors que moi j'ai parlé 2 minutes. Tu vois pas qu'il y a potentiellement un petit problème ?
Est-ce que tu as déjà été déçu par une personne que tu estimais comme féministe ? Qu'est-ce que tu ferais si tu entendais un discours transphobe de leur part, par exemple, ou un discours antisémite de leur part ?
Moi, ces derniers temps, je t'avoue que j'ai été confrontée parfois à des discours antisémites, vu l'actualité et ce qui se passe. Et c'est des choses qui me choquent profondément, que j'essaye de toujours relever, mais encore une fois, en essayant aussi de tenir compte des situations, des parcours individuels, etc. Mais je pense que justement, en restant un petit peu à l'écart des espaces militants, je m'en préserve un peu. Moi, je unfollow, je mets en sourdine... beaucoup. Voilà, quand je vois passer de la transphobie, je reporte, je dénonce sur Instagram ou autre, parce que c'est des choses qui me rendent malade. Et je trouve ça dingue que ces discours aient tellement pignon sur rue. Et puis, il arrive parfois que, comme j'ai un petit réseau, par exemple, si je vois passer une tribune transphobe publiée par un quotidien ou par un journal dont j'ai le numéro de téléphone de la rédac-chef, je me fends d'un mail. Je me fends d'un texto. Je dis, attends, là, ça va pas, en fait, de publier ce discours. Tu vois pas forcément ce qu'il y a derrière, mais ces femmes-là, ce sont pas des féministes. Enfin, voilà, notamment sur les TERF, où il y a eu... toute une période de flottement où elles n'étaient pas identifiées comme telles, où elles ont pu être présentées dans les médias comme une nouvelle branche du féministe, etc. Moi, c'est des choses qui m'ont vraiment mise en colère. Bah, moi, je me sers beaucoup de mes bouquins aussi. Hein. Moi, j'essaye de choisir cet espace qui est peut-être plus confortable pour moi, parce que parfois, les conversations m'épuisent. Moi, j'ai une énergie sociale qui est assez limitée. et c'est vrai que le livre, j'y ai trouvé un espace où j'avais le temps d'expliquer ce qu'est le féminisme. C'est toute la première partie de Futur, d'expliquer ce qu'est le féminisme, ce qu'est le sexisme et pourquoi, en fait, si on lutte contre le sexisme, on lutte aussi pour la transphobie. C'est bien d'avoir 30 ou 40 pages pour le faire, avec la possibilité de renvoyer vers des textes, de mettre des chiffres, des notes de bas de page et tout. Et moi, je travaille aussi beaucoup comme ça, en me disant... si je mets un maximum de données dans l'espace public pour que des gens s'en saisissent et que ce message se diffuse, je fais ma part du taf, quoi.
Récemment, on m'a dit, moi, je peux faire des vannes sur les Arabes parce que je suis pas un babtou, hein. Ça se voit pas, mais mon père, il a vécu au Maroc, hein. Ok. C'est un peu l'histoire de Clémentine Sélarié qui, sur le plateau de Léa Salamé, dit qu'elle est noire, quoi. Elle est convaincue à 100% qu'elle est noire. Donc, comment il faut réagir à ça, selon toi, quand on est une femme blanche antiraciste, que je sois là ou non? Qu'est-ce que tu rétorquerais à une personne qui te fait une mauvaise démonstration qu'on en fait trop sur le racisme contre les Arabes ou bien que le racisme anti-blanc existe ?
J'essaye d'être, d'être dans une démarche toujours assez éducative ou empathique, en fait, y compris avec ces personnes, parce que on grandit dans un environnement de toute façon tellement structuré par le racisme que parfois c'est un simple manque d'éducation. Ça peut aussi... être une forme de classisme que de juger avec brutalité une personne. Je veux pas non plus encore une fois être bisounours, mais moi j'imagine que c'est mon rôle. Je suis la bisounours des féministes. Mais voilà, parfois ça peut aussi valoir le coup, en fait, d'expliquer calmement. Moi, par exemple, je me suis rendu compte, il y a quelques années, j'ai interviewé Salkutsa Filan, qui est une femme rome, qui était l'héroïne d'un magnifique documentaire. Voilà, et moi, j'étais complètement inculte, en fait, sur les questions de racisme contre les personnes roms. Je crois que je savais même pas exactement ce que ça voulait dire, rome, et je pouvais probablement, parfois, dans une phrase, dire manouche, pour dire sale ou désordonnée, quoi. C'est-à-dire que mon vocabulaire était imbibé de préjugés racistes contre les personnes roms, sans même que je m'en rende compte, sans que je perçoive à l'instant le problème qu'il pouvait y avoir derrière ça. Bon, bah voilà, j'ai lu, je me suis documentée, j'ai discuté, et maintenant je sais que je reprends beaucoup les gens de mon entourage avec beaucoup de douceur quand j'entends cette expression émerger, en disant, tu sais, je crois pas que tu sois raciste, mais là, l'expression que tu viens d'employer, elle est hyper violente pour les personnes roms, et tu devrais peut-être arrêter de dire ça. Et en général, ça passe très bien, et les gens font, oh, ah mais ouais, t'as raison, j'avais jamais réalisé que c'était méga raciste comme expression. Encore une fois, si on a le temps et l'énergie, je trouve que la pédagogie paye toujours, à moins d'être vraiment face au fascisme, encore une fois. Je trouve que ça vaut quand même le coup d'essayer d'expliquer les choses calmement.
Ouais, c'est marrant, il y a quelques jours, j'ai consolé une amie qui me disait que j'étais la personne la plus sorore qu'elle connaissait. J'ai l'impression qu'en tant qu'homme, je peux effectivement entrer dans une forme de sororité, et qu'en tant que femme blanche, qui ne manque jamais de s'insurger contre des racistes, on peut entrer aussi dans ce que j'appelle de la solidarabilité. J'ai l'impression qu'il y a quand même une façon de faire communion tout en gardant nos places. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui cherche à mieux comprendre l'autre réalité d'une personne ?
Moi j'ai toujours le même conseil, c'est l'écoute en fait. C'est l'écoute. Essayez de pas interrompre. Essayez de laisser les personnes parler, quoi. De surtout pas se substituer à leur ressenti, à leur expérience, à leur vécu le plus possible. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon d'accéder à un niveau de compréhension et d'empathie réelle. Moi, cet outil de l'écoute, j'en ai fait mon travail et je l'applique aussi beaucoup au quotidien. Et je pense que c'est la clé, en fait, la clé de tout. D'ailleurs, ça revient même à ces questions d'espace médiatique. Ça revient aussi à Gayatri Spivak. La meilleure façon de lutter contre les discriminations, c'est de laisser l'espace de l'expression, c'est de laisser la parole se déployer. Tu vois, par exemple, je me suis retrouvée parfois dans des situations où je suis invitée à participer à un panel sur les discriminations et puis je me trouve en présence d'hommes racisés, issus de milieux populaires qui ont une association de lutte contre le racisme ou d'insertion sociale. Ou, voilà. Et je me rends compte que moi, par mes diplômes, par ma façon de m'exprimer, etc., je suis en totale harmonie avec les personnes qui nous ont convoquées, qui veulent nous écouter. Donc, je vais avoir tendance à prendre la parole, à faire des grandes phrases, à beaucoup occuper l'espace, avec des grands discours très justes et des valeurs, voilà. Mais à, en fait, inconsciemment, empêcher ces hommes de prendre la parole parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes codes et pas forcément la même aisance sociale que moi je vais avoir à parler dans un salon avec des dorures, etc. Et ça, c'est des mécanismes aussi dont j'essaye d'avoir conscience et de me dire parfois genre, Lorraine, t'as plein de trucs intéressants à dire, mais genre ferme ta gueule et laisse l'espace aux personnes pour qui c'est peut-être plus difficile de prendre la parole, de la prendre. Retiens ta parole pour laisser d'autres paroles se déployer. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi souvent la clé.
Alors pour finir, tu as récemment sorti un roman qui s'appelle 2060, qui parle de fin du monde et de féminisme, en gros. Donc comment tu envisages un futur collaboratif, une utopie féministe, et puis bien sûr, comment tu envisages l'avenir de cette convergence des luttes ?
À travers le prisme de l'écologie. C'est aussi ce que j'ai voulu faire dans 2060. Moi, je me suis rendu compte quand même que ces dernières années, mes angoisses et mes urgences politiques, elles se sont orientées de plus en plus vers l'urgence climatique. Et puis, moi, vraiment, la rencontre féministe qui m'a le plus bouleversée et qui a le plus fait bouger mes lignes ces dernières années, c'est Fatima Wasak. Voilà, la puissance des mers, l'écologie pirate, front de mer, vers dragon, ce tiers-lieu qu'elle a co-créé avec Front de mer et Alternativa à Bagnolet. Pour moi, c'est des lieux qui sont emblématiques de ce que devraient être nos luttes demain, c'est-à-dire des luttes pour la vie et pour la justice. En fait, si on se bat pour la justice et pour l'égalité, tout est dit, c'est pas la peine de rajouter 15 adjectifs derrière, quoi. On se bat pour la justice, donc on se bat pour le droit de tous les enfants à respirer un bon air et à manger une alimentation saine. On se bat pour l'égalité entre tous les citoyens et les citoyennes à pouvoir être dans l'espace public sans risquer pour leur vie. Et quand on en revient en fait à ces termes basiques, on arrive à la conclusion qu'on ne peut pas lutter pour les droits des femmes sans lutter contre le racisme et sans lutter contre la folie de nos dirigeants et de nos gouvernants concernant le climat. Et j'espère que l'écoféminisme, que toute cette pensée en fait, qui englobe tout ça, va s'imposer à la fois dans les milieux écologistes et dans les milieux féministes. Et quelque part, j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas, même si ça reste encore marginal. Je vois quand même de plus en plus de jeunes militantes féministes comme Camille Etienne, qui sont vraiment viscéralement féministes, et vice-versa. Je vois de plus en plus de grandes voix féministes être aussi porteuses d'un message écologiste. Donc voilà, pour moi, le défi de demain, c'est vraiment ça, quoi. Avec, évidemment, la lutte contre le fascisme qui continue d'être mon obsession quotidienne.
Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Il y avait cette femme blanche, féministe, revendiquée, qui m'a dit un jour « Non mais c'est malheureux ce qui arrive à ces meufs musulmanes là, mais tu comprends bien que moi j'y peux rien, je peux rien y faire. J'ai choisi ma bataille et clairement, je me sens pas légitime pour qu'elles accèdent ou non à leurs droits. C'est sûr que si j'étais musulmane, je t'aurais dit autre chose. » Qu'est-ce que tu lui aurais répondu à ma place ?
Oh là là, j'aurais répondu « Va lire le bouquin de Anan Karimi, Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» qui est exactement la réponse très précise à cet argument-là. Voilà, si tu considères que ta lutte en tant que femme ne concerne pas les femmes musulmanes, ça veut dire que pour toi, les femmes musulmanes ne sont pas des femmes. Est-ce que c'est vraiment le message que tu as envie de porter ? Est-ce que tu veux bien essayer de réfléchir deux secondes à ce que tu viens de dire ? Il y a énormément de ressources. Il y a aussi plein de ressources sur le site de la Lab. Et voilà, et encore une fois, je crois que c'est vraiment une question d'éducation et une question d'enlever ses œillères et de se débarrasser de tout un tas de préjugés coloniaux pour arriver à la conclusion logique qu'il n'y a pas de lutte féministe sans les femmes musulmanes.
Lorraine, merci mille fois d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir.
Merci à toi, Jamal, vraiment. Et merci pour ton travail et pour ton invitation. Je suis super honorée d'être dans Jeans aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci pour ces mots. Merci d'avoir écouté cet épisode inédit et hors série de Jeans Podcast. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou autre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte @jeans_podcast sur Instagram. Poursuivez votre écoute de Jeans avec tous les épisodes disponibles. Partagez autour de vous, car il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. À bientôt dans Jeans Podcast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.